Bonjour à toutes, à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie la Société libanaise de pneumologie et puis l'espace francophone de pneumologie pour cette invitation. Le Liban est un pays qui me tient beaucoup à cœur de façon personnelle et familiale et je suis très heureux d'être parmi vous. On m'a demandé de vous parler des biomarqueurs dans les pneumonies. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. Si vous faites une recherche sur PubMed et que vous mettez biomarqueurs et pneumonie, vous allez sortir plusieurs milliers de références avec des biomarqueurs multiples et variés. L'objectif ici, ce n'est pas de faire un catalogue de tous les biomarqueurs. L'objectif, c'est de vous donner un petit peu mon avis en tant que clinicien sur les principaux biomarqueurs qu'on a en pratique clinique quotidienne et en particulier sur l'utilisation de la C-réactive protéine, donc la CRP, et de la procalcitonine dans les pneumonies et dans le traitement des pneumonies. J'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, les pneumonies communautaires, puisque c'est de ça dont il s'agit, vous savez que c'est une cause d'infection très importante dans le monde, dans tous les pays du monde. Ici, c'est des données qui sont des données américaines, où on voit qu'il y a plus d'1,3 million hospitalisations par an et que ça coûte 8 milliards de dollars, que c'est la première cause de mortalité par pneumonie, de cause infectieuse, et que les infections respiratoires basses, je vous rappelle, c'est la première cause de prescription d'antibiotiques dans le monde. Une donnée qui n'est pas toujours très bien connue, sur laquelle je voulais en profiter pour insister, c'est que dans les pneumonies sévères hospitalisées, il y a une certaine mortalité, et vous voyez à gauche qu'il y a une mortalité hospitalière qui peut aller jusqu'à 10-15%, ça dépend un petit peu de la sévérité des patients auxquels on s'adresse, mais qu'une pneumonie, ce n'est pas un épisode isolé et ça survient rarement par hasard et que les gens continuent à mourir et à mourir beaucoup dans l'année qui suit une hospitalisation. Vous voyez qu'après une hospitalisation pour pneumonie, vous avez des taux de mortalité qui montent à 40-50% parfois. Quand on évalue une pneumonie, on peut penser biomarqueur et c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier quand même la clinique et ça va être un petit peu un leitmotiv pendant toute cette présentation. Les biomarqueurs, c'est bien, mais avec un biomarqueur, quel qu'il soit, on ne réinvente pas toute la médecine et il faut savoir en quoi ces biomarqueurs peuvent complémenter notre approche clinique et pas uniquement penser qu'on va faire un test biologique, avoir un chiffre et ensuite tirer des conclusions fondées exclusivement sur ce chiffre. Et pour stratifier un petit peu la sévérité des pneumonies, vous savez qu'on a un certain nombre de scores cliniques. Il y a ce qu'on appelle le score de Fine, qui est le PSI, le Pneumonia Severity Index, qui est très utilisé dans les essais cliniques, qui est très peu utilisé en pratique parce qu'il est très compliqué. Il y a des scores simplifiés comme le CURB 65, qui est fondé sur des critères clinico-biologiques simples comme l'état de conscience, l'urée, la fréquence respiratoire, l'âge et la fréquence et la pression artérielle, pardon, voire des versions même simplifiées comme le CRB 65 pour lequel on n'a pas besoin de l'urée. Et puis vous avez des critères qui sont proposés par différentes sociétés savantes. Ces critères sont globalement simples à mettre en œuvre et ils sont pas mal, pas tellement pour apprécier la sévérité d'un patient et savoir s'il faut le mettre en réanimation, mais plutôt quand on est sur des scores qui sont bas pour pouvoir traiter les patients de façon ambulatoire. Alors ces scores ont été évalués, je vais passer assez vite. Tout ça pour vous dire que c'est pas la peine de s'embêter avec un score compliqué tel que le score de Fine, que finalement il y a un certain nombre d'études qui montrent que le CURB 65, voire même le CRB 65, ont exactement la même performance. Donc, premier message, pour les pneumonies, regardez l'état de conscience de vos malades, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, l'âge, et vous avez déjà l'un des meilleurs biomarqueurs du pronostic de ces pneumonies. Alors après, pourquoi on a besoin de marqueurs biologiques dans les pneumonies ? On pourrait avoir besoin de marqueurs biologiques pour améliorer la qualité du diagnostic. Et on va voir que le diagnostic de pneumonie, c'est quelque chose qui a l'air très très simple et qui est en fait très compliqué, et que les critères sur lesquels on diagnostique les pneumonies ne sont pas très bons. Après, on pourra avoir besoin de biomarqueurs pour prédire la sévérité et savoir si on doit hospitaliser, savoir où on doit hospitaliser. J'ai rayé, on va en parler un tout petit peu, et je pense que les biomarqueurs ne sont pas très performants dans ce domaine-là. Et puis enfin, on peut avoir besoin de biomarqueurs pour monitorer la réponse thérapeutique, et en particulier, il y a une littérature assez extensive qu'on va revoir sur la procalcitonine pour savoir si on peut guider les thérapeutiques, guider la durée de l'antibiothérapie sur les résultats de la procalcitonine. Avant de commencer sur les biomarqueurs, je voudrais simplement rappeler quelques recommandations. Dans les recommandations internationales, que ce soit les recommandations américaines, vous voyez ici de Clinical Infectious Disease en 2007, ou les recommandations françaises de 2010, on dit à peu près la même chose. On dit que le diagnostic de pneumonie est compliqué, que la pneumonie, ça peut tuer de façon rapide, et que tout cas suspect de pneumonie doit être traité par antibiotiques, et en particulier par des antibiotiques contre le pneumocoque, qui est la bactérie qui tue le plus rapidement. Que ces antibiotiques doivent être débutés dès que le diagnostic est suspecté, et idéalement dans les 4 premières heures après qu'on ait cette suspicion diagnostique, puisque la précocité du traitement antibiotique est un facteur pronostique important. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Maintenant, comment diagnostique-t-on une pneumonie ? Vous êtes tous pneumologues, je ne vais pas vous apprendre à diagnostiquer une pneumonie. Vous savez qu'habituellement, les gens ont de la fièvre, ils toussent, éventuellement ils crachent, ils ont éventuellement une douleur thoracique. On peut avoir des signes auscultatoires, on peut avoir des signes radiologiques. Néanmoins, quand on regarde ici des courbes ROC, donc avec en ordonnée la sensibilité et en abscisse 1 moins la spécificité, vous avez en principe des courbes qui doivent être, plus elles sont performantes, plus elles sont verticales, c'est-à-dire qu'elles tendent vers le coin supérieur gauche de ce graphique. En fait, quand on regarde les différents marqueurs, si vous regardez par exemple la production de mucus, donc l'expectoration, c'est la ligne qui est tout en bas, c'est absolument non performant pour le diagnostic d'une pneumonie. Alors on pourrait croire qu'il y a des choses qui sont plus performantes. Si on regarde l'auscultation pulmonaire, c'est pas très performant. Si on regarde la fièvre, c'est pas très performant non plus. Si on regarde la CRP, c'est assez peu performant. Le plus performant dans tout ça, c'est la procalcitonine, mais même la procalcitonine n'est pas très performante. Ça veut dire que sur tous les critères individuels qu'on utilise, la performance pour le diagnostic de pneumonie n'est pas terrible. Alors là, bien sûr, c'est des études qui sont faites avec des critères individuels. Quand on couple l'ensemble des critères, on est un petit peu plus performant, mais il reste un certain degré d'incertitude sur le diagnostic de pneumonie. C'est pas parce que quelqu'un a de la fièvre et qu'il tousse qu'on a un vaccin auscultatoire et un doute sur la radiographie thoracique que le malade a forcément une pneumonie. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux avec les biomarqueurs ? Bien, ici, c'est une étude qui avait été publiée il y a maintenant quelques années, et sur laquelle on regardait à la fois si la CRP, la procalcitonine et d'autres marqueurs pouvaient aider à confirmer un diagnostic de pneumonie. Et c'est la petite phrase qui est là-haut qui montre que c'est pas très bon, que la meilleure valeur de CRP limite pour diagnostiquer une pneumonie, c'était une CRP au-dessus de 33 mg par litre. Mais vous voyez que la sensibilité n'est pas terrible, 83%, que la spécificité est encore pire, 44%, et que donc ça n'aidait pas beaucoup au diagnostic. Est-ce que ça aide au diagnostic de sévérité ? Vous avez sur le graphique de gauche les concentrations de CRP et puis en abscisse les scores de PSI, donc de score de Fine, 1, 2, 3, 4, 5. Plus on va vers le haut, plus le 5, c'est donc les malades qui sont très sévères. Vous voyez qu'on a tous les niveaux de CRP et que la CRP non seulement n'est pas un très bon facteur pronostic, mais en plus n'est pas vraiment liée à la sévérité de l'atteinte pulmonaire. Pareil pour le taux de globules blancs sur le graphique de droite. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux avec la procalcitonine ? En termes de diagnostic, un tout petit peu mieux. En termes de sévérité, vous voyez que dans les classes 5, la PCT est souvent très élevée. Mais là aussi, vous voyez que même en classe 5, vous avez des patients qui ont une PCT à 0 et qu'il y a en fait une dispersion très importante des données et que finalement, ces biomarqueurs vous aident assez peu au diagnostic et vous aident assez peu au pronostic de cette pathologie. Alors, tout le problème, c'est ça. C'est quand vous avez une suspicion de pneumonie et on a des critères diagnostiques qui ne sont pas terribles, il est recommandé de mettre des antibiotiques de façon précoce, et c'est une excellente recommandation et qu'il faut bien sûr suivre. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on a tendance à traiter un petit peu trop de patients, à donner un petit peu trop d'antibiotiques. Ce n'est pas toujours anodin de faire ça, il peut y avoir des effets secondaires des antibiotiques, des allergies graves, éventuellement des troubles digestifs, pouvant même aller jusqu'aux colites pseudomembraneuses, mais il y a aussi des conséquences écologiques avec l'apparition de résistance de bactéries, et donc on aimerait bien pouvoir être un petit peu plus performant dans le fait de donner ou pas des antibiotiques, de poursuivre ces antibiotiques, et combien de temps il faut les poursuivre. Alors, pour savoir s'il faut donner ou pas des antibiotiques, il y a un algorithme qui est peut-être arrivé jusqu'à un certain nombre d'entre vous qui est largement utilisé. Et on va voir que cet algorithme, finalement, il n'est pas terrible. Donc, cet algorithme, il est fondé sur la procalcitonine. Il a été développé dans une littérature assez intensive dans les 10 dernières années, on va dire maintenant. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, ben, si vous avez une procalcitonine indosable inférieure à 0,1, l'antibiotique est vraiment très déconseillé. Si vous êtes entre 0,1 et 0,25 microgrammes par litre, l'antibiotique est déconseillé. Entre 0,25 et 0,5, c'est recommandé, et puis au-dessus de 0,5, c'est très fortement recommandé. Donc, quand on voit ça tel que c'est publié, on a vraiment l'impression que finalement, il suffit, quand on voit un malade suspect de pneumonie, de lui faire une prise de sang, de regarder le chiffre et derrière, de façon un petit peu monosynaptique, de dire c'est élevé, je mets des antibiotiques, c'est pas élevé, j'en mets pas, et on oublie tout le reste. Alors, est-ce que ça affecte vraiment la prescription d'antibiotiques, prescription initiale d'antibiotiques devant une suspicion de pneumonie ? Ben, ici, c'est l'ensemble des études sur le sujet, les trois premières étant publiées par exactement la même équipe et les deux autres par des équipes différentes. Et ça avait été reviewé dans Médecine Maladie Infectieuse en 2013. Cette revue est absolument remarquable, je vous incite à la lire si vous pouvez y avoir accès. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, oui, le fait d'appliquer cet algorithme, ça permet de diminuer l'antibiothérapie, mais en fait, pas tellement. Regardez la première étude. On compare une stratégie fondée sur la procalcitonine ou une stratégie habituelle. Stratégie habituelle, 99% des patients ont des antibiotiques. C'est ce qui est recommandé. Vous suspectez une pneumonie, vous mettez des antibiotiques. C'est quasiment 100% des patients. On fait cet algorithme PCT, on tombe à 90%. Ça veut dire qu'on a réduit de 9% la prescription d'antibiotiques. C'est pas phénoménal quand même. Deuxième étude, 90,5 versus 100%. Troisième étude, 85 versus 99%. Quatrième étude, 85 versus 97%. Donc finalement, on réduit d'à peu près 10% la prescription initiale d'antibiotiques en faisant un biomarqueur qui est la procalcitonine, biomarqueur qui a lui aussi un coût et biomarqueurs que vous n'avez pas forcément sous la main de façon facile quand vous êtes hors d'un secteur hospitalier. Et même dans les hôpitaux, encore faut-il avoir un laboratoire qui vous dose la procalcitonine par la technique adaptée dans un délai court qui vous permette de décider si vous mettez ou pas un antibiotique à un patient. Donc quand même pas très facile. Peut-être plus intéressant, c'est cette stratégie pour diminuer la prescription d'antibiotiques, stratégie qui a été remarquablement peu évaluée dans la littérature. J'ai trouvé une seule référence, et cette référence, c'est une lettre dans un journal d'infectiologie qui est un petit peu obscur, mais qui m'a semblé tout à fait intéressante. De quoi il s'agit ? Il s'agit le nombre exact m'échappe, mais ça doit être à peu près 70 patients suspects de pneumonie dans un service d'urgence. L'étude a été faite à Nantes, en France, et c'est des patients qui sont tout à fait standards. Quand vous voyez leurs caractéristiques démographiques sur le côté gauche de la diapositive, c'est des sujets qui sont assez âgés, comme on voit souvent dans les pneumonies, 76 ans. Il y a 60 patients. Vous avez la moitié des patients qui sont de sexe masculin. Ils ont un certain nombre de comorbidités, de maladies chroniques, insuffisance cardiaque, hépatopathie, BPCO. Et initialement, ils ont été vus dans un service d'urgence avec des symptômes cliniques et radiologiques compatibles avec un diagnostic de pneumonie, et ils ont été mis sous antibiotiques. Et dans les 24 heures, dans les 12 à 24 heures exactement, qui suivent leur hospitalisation pour cette suspicion de pneumonie, il y a une réévaluation du dossier par l'équipe médicale. Et sur cette réévaluation du dossier, sur 60 patients, ils décident d'arrêter les antibiotiques chez 15 patients parce qu'ils estiment que l'évolution n'est pas en faveur du diagnostic de pneumonie, qu'il y a un autre diagnostic qui a été fait, que la fièvre a diminué, que finalement le patient va pas si mal. Et donc dans 25% des cas, ils arrêtent les antibiotiques. Sur ces patients, aucune pneumonie ne s'est déclarée dans les 30 jours suivants. Donc ils ne se sont pas trompés sur le fait de ne pas mettre d'antibiotiques à ces malades. Et le diagnostic le plus fréquent lors de cette réévaluation clinique, c'était l'insuffisance cardiaque dans une fois sur deux. Donc ça veut dire qu'avec certes une petite étude, certes une petite série, certes monocentrique, mais avec du bon sens clinique, de réévaluation à 24 heures après le début d'une antibiothérapie, on est capable d'arrêter les antibiotiques chez 25% des malades dans cette étude. Je vous rappelle qu'avec la procalcitonine, vous arrêtez les antibiotiques chez 10% des malades à peu près. Deuxième question, est-ce que on peut diminuer la durée du traitement avec les biomarqueurs et en particulier avec la procalcitonine ? Donc on est toujours sur la même équipe suisse qui publie beaucoup sur la procalcitonine et qui a toujours le même algorithme avec les mêmes cut-offs de procalcitonine. Et puis là, ils font la procalcitonine non seulement au diagnostic, donc au jour 1, mais ils la font au fil du temps, jour 4, jour 6, jour 8 et à 6 semaines. Et en fait, ils vont conseiller d'arrêter les antibiotiques quand la procalcitonine revient à la normale ou alors quand elle était très haute, quand elle revient à moins de 50% de la valeur initiale. Et ce que vous avez sur la partie gauche de cette diapositive, vous avez le pourcentage de patients à chaque temps qui est encore sous antibiotiques. Donc en bleu, c'est le groupe contrôle, en blanc, c'est le groupe procalcitonine. Et vous voyez que si initialement, il y a une différence qui est modeste entre le groupe contrôle et le groupe procalcitonine, au fil des jours, cette différence devient de plus en plus importante. Et en fait, ce que les auteurs disent, c'est qu'on peut raccourcir la durée de prescription des antibiotiques avec la procalcitonine, avec des dosages itératifs de procalcitonine qui rajoutent certes un coût relativement important, mais ce coût pouvant être compensé par une diminution, par exemple, de la durée d'antibiotiques, donc du nombre de doses d'antibiotiques prescrites, et éventuellement par une diminution de la durée d'hospitalisation, bien que dans cette étude, la durée d'hospitalisation soit identique entre les deux groupes. Alors, on peut mettre ça en chiffres. Vous avez à gauche, le nombre de jours d'antibiotiques entre le groupe procalcitonine et le groupe contrôle. Donc vous voyez que dans le groupe procalcitonine, quand vous avez une pneumonie, on vous traite en moyenne 6 jours, alors que quand vous avez que dans la stratégie classique, on ne vous traite pas 6 jours, on vous traite 13 jours. Ah bon ? 13 jours, c'est quand même drôlement long, hein ? Et donc, il y a, pareil, la même littérature, les mêmes articles qui vous disent que on peut diminuer la durée d'antibiothérapie. Et donc, première étude, qui est la plus large, on va peut-être s'arrêter juste sur celle-là, multicentrique, un groupe suivi par la procalcitonine, un groupe traitement habituel. Vous avez 7 jours d'antibiotiques dans le groupe procalcitonine, 11 jours d'antibiotiques dans le groupe contrôle. OK. Mais réduire la durée d'antibiotiques sans procalcitonine, c'est des choses qu'on sait déjà faire. Il y a un certain nombre d'études. Par exemple, la première étude d'El Moussaoui qui est publiée dans le BMJ sur les pneumonies à pneumocoque. 3 jours d'amoxicilline versus 8 jours d'amoxicilline. Pas de différence. Et puis vous avez des études, 5 jours de ceftriaxone versus 10 jours de ceftriaxone, pas de différence, etc. Donc en fait, on est capable déjà de réduire la durée d'antibiotiques et il suffit d'aller regarder ce que conseillent les sociétés savantes. L'AFSAPS en 2010 vous dit la durée d'antibiotiques pour une pneumonie, c'est habituellement de 7 à 14 jours, une moyenne de 10 jours, mais en fait, ils ne recommandent pas vraiment de durée. La Société européenne d'infectiologie et de pneumologie en 2011 vous dit la durée de l'antibiothérapie habituellement n'excède pas 8 jours chez les patients répondant au traitement et éventuellement on peut céder de la procalcitonine. Les Américains vous disent c'est au moins 5 jours et on propose des critères pour arrêter les antibiotiques qui sont les critères cliniques habituels qui disent que le malade va bien. Réfléchissez un petit peu. Regardez les études sur la procalcitonine et vous verrez qu'en fait, dans ces études-là, les malades qui sont suivis par procalcitonine ont la durée recommandée de traitement, même en l'absence de procalcitonine, alors que les malades du groupe contrôle, qui étaient traités jusqu'à 10, 12, 13 jours, ont des durées d'antibiotiques qui sont anormalement longues. Je vais passer rapidement là-dessus pour conclure. Et pour vous dire que les scores cliniques, et en particulier les scores cliniques simplifiés comme le CRB65, sont d'excellents marqueurs pronostiques, en particulier pour détecter les malades peu sévères, susceptibles d'être traités en ambulatoire et qu'il faut les utiliser, que c'est indispensable, que malgré une littérature assez extensive, la CRP et la procalcitonine sont finalement d'assez peu d'utilité pour guider l'initiation d'une antibiothérapie, savoir si on doit mettre un malade sous antibiotique ou pas, et que dans le doute, il faut peut-être savoir mettre un malade sous antibiotique, mais l'arrêter de façon précoce après une réévaluation si on pense que le diagnostic de pneumonie n'est pas acquis. Que pour guider la durée d'antibiothérapie, vraiment la procalcitonine me semble assez peu utile. Éventuellement, dans certains cas particuliers, en particulier quand on a des échecs thérapeutiques, ça peut être utile de céder de la procalcitonine. Et enfin, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit dans cette présentation, c'est-à-dire que les biomarqueurs ne devraient jamais être utilisés isolément. Et ils doivent faire partie d'un raisonnement clinique. Et ça, c'est vrai pour les biomarqueurs des pneumonies, mais c'est vrai pour les biomarqueurs de tout ce qu'on fait en médecine. Je vous remercie de votre attention.